On voit un autre psaume qui parle la grandeur de Dieu, qui parle la création de Dieu. Donc nous allons prendre le psaume 8. C'est un tout petit psaume. Psaume 8. Le psaume 8. Je vais lire. Au chef des chants sur la guitite, psaume de David. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le fils de l'homme pour que tu te prennes garde à lui? Tu as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, le brebis comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Si vous avez remarqué, le premier verset de ce psaume commence avec les mêmes paroles. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Le verset 10, Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Le psaume, il commence et termine avec cette louange à Dieu. Le psaume 8 explore le thème de la splendeur majestueuse de Dieu et de notre insignifiance chétive à titre de comparaison. Et pourtant, en même temps, Dieu nous a créés à son image et nous a gracieusement couronné de gloire et de majesté. Il nous a confié le rôle de régner sur sa création. Toutes ces pensées devraient nous amener, comme le psaume commence à se terminer et se termine, à déclarer dans l'adoration, l'Éternel Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ce psaume, un commentateur, il dit ainsi, ce psaume est un exemple inégalé de ce qui devrait être un cantique, célébrant comme il le fait la gloire et la grâce de Dieu, répétant qu'il est et ce qu'il a fait, et nous relions nous et notre monde à lui, le tout avec une économie magistrale des mots et dans un esprit de joie et de crainte mêlée. La gamme de pensée nous amène non seulement au-dessus des cieux et au début, mais comme le souligne le Nouveau Testament, jusqu'à la toute fin. C'est-à-dire, le psaume, il commence avec la création, c'est-à-dire le premier livre de la Genèse, et se termine aussi avec la pensée qu'on trouve dans le livre d'Apocalypse. Donc, ça balaye toute la parole de Dieu. Nous ne savons pas quand David a écrit ce psaume. De toute évidence, cela découlait de son expérience de contempler le ciel nocturne et de s'émerveiller de son immensité par rapport à la propre pudeur sur cette minuscule particule de l'univers appelée planète Terre. Nous ne savons pas avec certitude ce que signifie le terme « guitite » dans le titre. « Guitite », on pense que c'est un instrument musical. Et Gittit, c'est aussi le nom d'un lieu. Il fait référence à la ville philistine de Gath. Ainsi, il peut se référer à un psaume pour les vendanges, comme la fête de tabernacle. Au voyage de l'arche de la maison d'Obed-Edom, le Gittit à Jérusalem, où on trouve dans le deuxième livre de Samuel, chapitre 6, verset 11. O aner ou un instrument de musique nommé d'après la ville. Deux autres psaumes, le 81 et 84, ont le terme dans le titre. Dans le psaume 8, David nous exhorte à adorer le Seigneur parce que son nom est majestueux dans toute la terre et parce qu'il nous a gracieusement couronnés de gloire et de majesté. Le psalmiste il répète que le nom de Dieu est majestueux. Et quand, qu'est-ce qui est dans le nom? Dieu, il ne peut pas avoir un nom. On ne peut pas contenir Dieu dans un nom. C'est pourquoi quand Moïse l'a posé la question, quel est ton nom? Dieu l'a dit, je suis ce que je suis. Il n'est pas donné. On ne peut pas, même le nom de Jésus. Et nous sommes limités de savoir que Jésus, ça veut dire sauveur. Et quand on parle de nom Emmanuel, Dieu avec nous. C'est pourquoi Dieu, dans la parole de Dieu, il nous donne plusieurs noms pour décrire son caractère. Et donc, on ne peut pas contenir Dieu dans un mot ou dans un nom, mais pour nous, on a besoin de savoir, connaître le nom de Dieu, et ça signifie beaucoup de choses pour nous. Et dans la Bible, surtout dans le temps de l'Ancien Testament, les peuples d'Israël, ils avaient le nom, ce n'est pas comme... comme on nomme un enfant aujourd'hui. Et normalement, il donnait le nom à un enfant le huitième jour. Et souvent, le nom signifiait le caractère de la personne. Vous pouvez prendre Édom, c'est rouge. Jacob, il y a une signifiance. Et chaque nom, il y avait une sens pour décrire le caractère de la personne. Donc, quand le psalmiste dit « Ton nom est majestueux », et on peut chanter des hymnes. Hein. Au départ, je voulais chanter ce hymne « Ton nom est majestueux hein, ». Ça se trouve dans l'autre recueil, manque de temps, on a chanté un autre cantique. On peut chanter « Ton nom est majestueux ». Mais est-ce qu'on comprend vraiment qu'est-ce que ça veut dire quand on dit « ton nom est majestueux » Mais je pense qu'on a besoin de savoir personnellement, d'une manière très personnelle, quand on chante « ton nom est majestueux ». Parce que les poètes nous sont écrits, on chante avec une certaine... on est à l'aise pour chanter, mais si on réfléchit véritablement, quand on dit « Seigneur, ton nom est majestueux », est-ce que le Seigneur, il est majestueux dans notre vie? Pour nous, est-ce qu'il est majestueux? Et en Exode 15, il dit « Qui est comme toi, ô Dieu, ô Seigneur? Et qui est comme toi dans la majesté, dans la sainteté ?» Hein, Exode 15, 11. Et donc, le psalmiste, quand il dit « Ton nom est majestueux », il a contemplé la gloire de Dieu. « Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre, ta majesté s'élève au-dessus des cieux. » Et parce que le psalmiste, il a pris le temps pour contempler la gloire de Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes dans la confusion entre la nuit et le jour. On est ébloui par la lumière artificielle. La pollution de lumière nous cache de voir la création de Dieu. On s'arrête même pas pour voir le soleil, ni la lune, ni les étoiles. Ça m'est arrivé il y a plusieurs années, être en Bretagne, je crois, dans un lieu où il n'y a pas de lumière artificielle du tout. On était dans une cabane, type de cabane, et assez. Moi, j'ai jamais vu les cieux comme cela. J'ai vu des milliers d'étoiles qui étaient visibles à l'œil nu. Je dis, mais j'ai jamais vu ça. Donc, pour dire que le Seigneur, son nom est magnifique sur toute la terre, et ce n'est pas quelque chose qu'on peut détacher de notre vie et dire facilement que ton nom est magnifique sur toute la terre. Donc, quand on voit la majesté de Dieu, la magnificence de Dieu sur toute la terre, je voudrais citer quelques exemples, mais il y en a plusieurs, mais je voudrais quitter certains exemples. Si quelqu'un veut savoir que le Seigneur, notre Créateur, il est magnifique, il est majestueux, ça suffit de contempler le corps humain. Seulement la façon, le corps humain qui est créé. Et souvent, nous ne s'arrêtons pas pour penser à ça. Souvent, nous arrêtons quand le médecin il nous dit certaines choses, ce qui ne va pas dans le corps. Mais nous ne arrêtons pas pour voir comment ça fonctionne et tout ça. Le cerveau humain a 10 milliards de cellules nerveuses qui interagissent en coordination pour nous permettre de fonctionner comme nous le faisons. Le cerveau humain a 10 milliards de cellules nerveuses. Je pense qu'on va tomber dans la pomme quand on dit 10 milliards de cellules nerveuses. On n'arrive pas à comprendre. Et le message qui se passe dans une vitesse énorme. Et parfois, je pense, quand je monte l'escalier, on calcule les premières 2-3 pas parce qu'on trébuche un peu. Après, une fois qu'on a mesuré, le pied l'a mesuré, parce que le cerveau, il envoie le message aux yeux, les yeux sont photographiés ou vidéographiés, et tout de suite, le pied, il commence à monter à une vitesse énorme. Et tout ça, le calcul est fait dans quelques fractions de secondes. On ne pense même pas, on ne calcule pas la dimension de chaque pas où on devrait faire les mesures, on ne calcule pas. Mais le cerveau, il a déjà calculé. Il y a 10 milliards de cellules nerveuses qui interagissent en coordination pour nous permettre de fonctionner comme nous le faisons. C'est simplement un exemple. Hein. Mais après, les gens comme moi, peut-être c'est moi, hein, mais si quelqu'un qui est très intelligent, ça peut être très, très aigu. Nos yeux ont environ 10 millions de cellules réceptrices dans chaque rétine. 100 millions de cellules réceptrices dans chaque rétine, qui contient également 4 autres couches de cellules nerveuses. Le système effectue des milliards de calculs par seconde. Suivez-moi. Hein. Des milliards de calculs par seconde, voyageant à travers votre nerf optique jusqu'au cerveau qui dispose de plus d'une dizaine de centres de vision distincts pour le traiter. On peut parfois, on achète une caméra, on dit que c'est très très puissant, très super et tout ça, mais c'est rien du tout par rapport à nos yeux. C'est rien du tout. La caméra la plus puissante que vous pouvez voir dans le monde, ça fait rien du tout quand on compare à nos yeux. Votre peau a plus de 2 millions de minuscules glandes sudoripares, environ 3000 par pouce carré. Pour réguler votre température. La peau, ce n'est pas uniquement pour traiter le racisme, non? Je pense que c'est beaucoup plus que ça. La peau, il fait un travail énorme et magnifique. Hein? Environ 3000 par pouce carré pour réguler votre température. J'étais en Inde à presque 40 degrés. Je viens ici, 15 degrés. Tout de suite, mon corps s'est habitué. Je n'ai pas tombé malade. Et tout ça, c'est le travail de peau. Et imaginez, si on n'a pas la peau, le corps, il serait sans forme. Hein. Si on n'avait pas la peau et l'os, nous serons moins qu'un amiba, les cellules, hein, les micro-organismes. Notre corps bat en moyenne 75 fois par minute. 40 millions de fois par an, ou 2 milliards et demi de fois en 70 ans. 2 milliards et demi de fois en 70 ans. Il pompe environ 13 000 litres de sang par jour. 13 000 litres de sang par jour. Mais tout ça, c'est un morceau de chair. La plus puissante pompe qu'on peut trouver. Mais comment nous traitons notre corps? Comment est-ce que nous louons? Mais je pense qu'on devrait louer le Seigneur comme le Parisien. Hein? Je ne suis pas moche comme l'autre. Non. Le corps humain s'est créé dans une façon très, très intrinsèquement, d'une façon, une beauté magnifique. Et notre corps est soutenu par plus de 200, pas plus, hein, par 206 os finement conçus. Si je dis 200, plus que 206, Kelsey serait fâchée. Elle sait exactement le nombre. Donc, 206 os finement conçus, reliés à plus de 500 muscles et à de nombreux tendons et ligaments. Certains muscles répondent à votre volonté consciente, tandis que d'autres réagissent automatiquement. On ne pense pas pour... on peut penser parfois, mais notre paupière se ferme et s'ouvre automatiquement, plusieurs fois par minute. Hein. Et on ne pense pas à faire, et ni notre cœur. Hein. C'est l'option involontaire. Le poumon, il respire involontairement. Donc, tout ça est dans le corps humain. Votre système digestif contient environ 35 millions de glandes qui sécrètent des jus pour digérer votre aliment et maintenir votre vie. Je n'ai même pas mentionné vos poumons, vos autres sens, oui, goût, odorat et toucher, vos glandes endocrines, votre système immunitaire et bien plus encore, et tout fonctionne ensemble. Je pense qu'il faut arrêter un moment pour remercier le Seigneur qu'il nous a donné un corps comme ça. Et aussi pour dire que combien un Dieu magnifique que nous avons, un Créateur infiniment sage, infiniment intelligent que nous avons. Et parfois, on peut, pour un petit mot de tête, nous murmurons, nous plaignons, on dit que, ah, pourquoi ce mot de tête? Mais le Seigneur, il est en train de faire fonctionner tout ça par sa sagesse. Et ce n'est que le corps humain. Lorsque vous considérez l'équilibre complexe du monde naturel avec le cycle hydrologique, la façon dont la plante pousse et traite le dioxyde de carbone pour produire de l'oxygène, les saisons, l'équilibre entre les insectes et les oiseaux et les autres animaux, il est tout simplement absurde de suggérer que tout cela s'est produit par hasard, par pur hasard, au fil du temps, sans le Créateur. Comment l'homme, un simple homme, il ose de dire que tout ça s'est évolué dans le temps sans un Créateur? Mais on trouve autour de nous, non? Il y a beaucoup de personnes qui pensent que... Il y a même des chrétiens qui pensent que... qui croient aux évolutions. Comment est-il possible que tout ça, ça fonctionne sans un Créateur, sans un Dieu qui est Créateur? David considérait aussi la splendeur de Dieu au-dessus des cieux. Bien sûr, il n'avait pas de télescope pour lui montrer à quel point l'univers est grand. Qu'aurait-il pensé s'il avait su ce que nous savons? L'immensité même de l'espace et la coordination de tout cela sont stupéfiantes. Si vous pouviez voyager à la vitesse de la lumière, c'est-à-dire 300 000 km par seconde, il vous faudrait 8 minutes pour vous rendre au soleil. Parce que vous savez, la lumière du soleil, ça prend 8 minutes pour venir sur la Terre. Passer du soleil au centre de la Voie lactée prendrait environ 33 000 ans. Il faut le suivre. Hein? La Voie lactée appartient à un groupe d'environ 20 galaxies connues sous le nom de groupe local. Pour traverser ce groupe, vous devrez voyager pendant 2 millions d'années. 2 millions d'années. Le groupe local appartient à l'amas de la Vierge qui fait partie d'un super-amas local encore plus grand qu'il est d'un demi-milliard d'années-lumière de diamètre. Demi-milliard d'années-lumière, hein? Je n'ai pas dit demi-milliard d'années. Demi-milliard d'années-lumière de diamètre. Pour traverser l'univers entier tel que nous le connaissons, il faudrait 20 milliards d'années-lumière. Il ne faut pas penser que c'est des bêtises. Hein. C'est écrit dans le National Geographic, l'édition janvier 1992. Moi, je ne saisis rien du tout de tout ce qui est dit ici. Moi, je ne comprends pas. Mais tout ce que je comprends, l'univers est grand et nous sommes infiniment petits. Tout ce que je comprends, quand je lis la parole de Dieu en psaume 8, ou quand on voit toutes ces choses scientifiques, astronomiques, moi je ne comprends pas, je deviens très très petit. Et pourtant, les scientifiques soi-disant intelligents voient tout cela et attribuent ensuite à la nature ou au hasard. N'est-ce pas l'ange de siècle l'a aveuglé, ces gens. Vous savez, monsieur, Isaac Newton a fait faire une réplique exacte de notre système solaire en miniature. En son centre se trouvait une grande boule dorée représentant le soleil. Autour d'elle tournait de petits sphère représentant les planètes attachées aux extrémités de tiges de longueur variable. Ils étaient tous orientés ensemble par des rouages et des ceintures pour les faire se déplacer autour du soleil en harmonie. Peut-être que vous avez déjà vu dans le laboratoire, à l'école et tout ça, mais pour nous expliquer comment fonctionne le système solaire, on nous montre tout ça. Donc, Isaac Newton, il a un modèle comme ça. Et un jour, alors que Newton étudiait ce modèle, un ami qui ne croyait pas au récit biblique de la création s'est arrêté. S'émerveillant devant l'appareil et regardant Newton faire bouger les corps célestes dans leur orbite, l'homme s'est exclamé, « Monsieur Newton, quelle chose exquise ! Qui l'a fait pour vous ?» Sans lever les têtes, Newton répondit, « Personne. »« Personne ?» demanda son ami. « C'est vrai, je n'ai dit personne. » Toutes ces boules et rouages et ceintures et engrenages viennent de se réunir et de se demander des merveilles par hasard. Ils ont commencé à tourner dans leur orbite définie et avec un timing parfait. Son ami incrédule a compris le message. Comment l'homme, il peut nier la création de Dieu, l'œuvre de ses mains? Comment l'homme, il peut être aveuglé pour nier qu'il y a un créateur derrière toutes ses créations? Mais le monde de Newton n'était rien comparé à l'immensité et de complexité de l'univers. Vraiment, Dieu a montré sa splendeur au-dessus des cieux. Et dans le verset, regardez le verset 3, dans notre psaume 8, par la bouche des enfants et les cieux et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Et n'est-ce pas dans Matthieu, prenez avec moi Matthieu 21, Évangile de Matthieu, chapitre 21. Verset 14 à 16. Matthieu 21, verset 14 à 16. Des aveugles et les boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il guérit, et il les guérit. Mais les principaux sacrificateurs des scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites et des enfants qui criaient dans le temple « Hosanna au fils de David » et lui dirent « Entends-tu qu'ils disent ?» Oui, leur répondit Jésus. « Avez-vous jamais lu ces paroles ? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. » Dieu n'a pas besoin des sages pour le défendre. Dieu n'a pas besoin de Newton ou des grands scientifiques pour le défendre. Dieu l'a utilisé des enfants, des nourrissons, pour parler pour lui. Donc, par la bouche des enfants et les ceux qui sont à mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le fils de l'homme pour que tu te prennes garde à lui? David sait qu'en dépit de toutes les preuves de la gloire de Dieu dans sa création, il y a encore des adversaires qui opposent à lui. Ils sont un préjugé a priori contre Dieu parce qu'ils veulent être les seigneurs de leur propre vie. Quand l'homme il refuse d'accepter la création de Dieu, le récit de la Bible par rapport à la création, parce que il veut être le maître de lui-même, maître de sa vie. C'est pourquoi il refuse. Il refuse volontairement qu'un créateur qui a créé toutes choses. Il commence par assumer le matérialisme et non donc pas de place pour Dieu. Comment Dieu traite-t-il avec de tels ennemis? David dit que c'est par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle tu as fondé ta gloire, pour confondre les adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Que veut-il dire? Regardez aussi 1 Corinthiens 1. À 31, nous allons lire 1 Corinthiens 1, 27 à 31. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui par la volonté de Dieu a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin que, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Donc, comme je l'ai dit, Dieu n'a pas besoin de scientifiques pour le défendre. Et Dieu l'a révélé ces choses à ceux qui croient par leur foi. Jean Calvin avait raison quand il a dit que le processus de conception et de la naissance d'un enfant montre la splendeur de Dieu si clairement que même un nourrisson allaitant ramène à terre la fureur des ennemis de Dieu. Ça se trouve dans le commentaire de Calvin. Calvin ne savait rien des processus biologiques et chimiques complexes qui ont lieu chez la mère et l'enfant à la naissance. Il observait juste l'émerveillement d'un nouveau-né. Comment pouvez-vous regarder un bébé et dire que cela s'est produit par hasard et dehors d'un créateur? Mais le processus biologique de la naissance est incroyable. 9 mois après la conception, le cerveau du bébé envoie une hormone à travers le placenta et dans l'hypophyse de la mère. Bien qu'il s'agisse d'un produit chimique compliqué, son message est simple. Je suis prêt. Il est temps. Tout le système complexe du bébé, poumon, cœur, système gastro-intestinal, système nerveux, cerveau, sont prêts à faire par eux-mêmes. La crâne du bébé n'a pas encore fusionné, de sorte qu'il peut être suffisamment souple pour passer par le canal génital. Au début du processus, les glandes surrénales du bébé ajoutent une injection d'hormones de stress pour aider à faire face. L'enfant ne respirera pas tant qu'il n'aura pas dégagé le canal génital. S'il respirait tôt, il suffoquerait. Mais s'il attendait trop longtemps, il subirait des lésions cérébrales. Juste avant que la mère et l'enfant ne se séparent, le nouveau-né reçoit une transfusion sanguine de dernière minute par le cordon ombilical. Le placenta a stocké les nutriments dont le bébé a besoin pour ce moment précis. Ça passe beaucoup plus de choses que nous ne comprenons pas, mais le cri de nouveau-né montre la force de Dieu. Le synopsis ci-dessus de la naissance est tiré de Geoffrey Simmons. Ça fait tourner la tête, hein, toutes ces choses. Mais pourtant, l'homme, facilement, il peut nier. Sans connaître quoi que ce soit, il nie ni le Créateur, ni Dieu, ni l'œuvre de ses mains. Et si vous regardez dans ce psaume, il y a 10 versets, mais le premier 5 versets, ça parle de majesté de Dieu. Et le deuxième, si vous lisez attentivement, le verset 5, « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui ?» Tu l'as fait peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme le bœuf, les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tous ceux qui parcourent les sentiers des mers. Éternel Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Mais nous devrions savoir une chose, quand nous adorons Dieu, quand nous disons combien tu es magnifique, combien tu es majestueux, Dieu reste Dieu et l'homme reste l'homme. On devrait toujours garder le respect qu'on doit à Dieu majestueux, ce Dieu magnifique, ce Dieu créateur. On ne peut pas confondre les choses. Et de toutes ces choses que nous avons vues, ça place Dieu très, très, très haut. Et ce Dieu pense à l'homme qui est rien du tout, même pas une petite particule dans la poussière de la terre. Mais seulement quand nous voyageons, quand l'avion il vole à 33 000 pieds, et là on pense que la terre, on ne voit même pas les choses. On ne voit même pas les choses. Mais seulement les... J'ai toujours remarqué une chose, hein, les hommes qui vivent dans la plaine, hein, dans les villes, dans la plaine, ils pensent qu'il est très grand. Quand ils marchent tête haute et tout ça, ils marchent comme si qu'il est le plus grand sur la terre. Mais quand on monte dans la montagne, on pense que combien on est petit, on est insignifiant devant la création de Dieu. L'homme, il est orgueilleux parmi les siens, mais quand il est dans la nature, dans le milieu de la création. Et l'homme, il devient très petit. On commence à comprendre combien on est insignifiant et infiniment petit. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Mais qu'est-ce que c'est magnifique, cette parole. David, il a contemplé la gloire de Dieu et au même temps, il a pensé que qu'est-ce que l'homme que tu souviens de lui. Mais pourtant, vous savez, Dieu nous garde chacun individuellement. Il nous aime personnellement. Et qu'est-ce que l'homme que Dieu, si grand, il pense à nous? Quand on prie, qu'est-ce que l'homme que Dieu, il entend nos prières, mais pourtant il entend. Même avant que le mot, il peut sortir de notre bouche, le Seigneur, il nous entend. Et la parole de Dieu nous dit que même, il voit même un petit moineau qui tombe sur la terre. Et même, il a compté les cheveux sur la tête de chacun. Un Dieu si grand, si merveilleux, il pense à nous. Qu'est-ce que l'homme, pour que tu souviennes de lui, et le fils de l'homme, pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. L'homme, il est fait, selon la parole de Dieu, il est fait un peu inférieur à Dieu. L'homme est fait inférieur à les êtres célestes, c'est-à-dire les anges. Mais il est distinct par rapport à des autres créations, des autres animaux. L'homme, il est complètement différent des autres animaux. Mais malheureusement, notre science, elle nous apprend que nous ne sommes pas très différents que les animaux. Je pense que c'est Bernard Shaw qui a dit « L'homme, c'est un animal social. Hein? » c'est tout. Un animal, mais qui a une société, hein? Qui est un animal social. Et la parole nous dit que tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as mis tout mis sous ses pieds. Regardez, Genèse chapitre 1, versets 26 à 30. Genèse 1, versets 26 à 30. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit de l'arbre et portant de la semence, et sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui meut sur la terre ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Donc, au début, à la création, quand Dieu a créé toutes choses, et Dieu, il a donné la domination sur toute la création à l'homme. L'homme, le grand H, hein? L'homme, Adam et Ève. Mais regardez qu'est-ce que se passe après, en Genèse chapitre 9. On va lire les premiers trois versets. Genèse chapitre 9, les premiers trois premiers versets. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture et vous donne tout cela comme l'herbe verte. Donc, ça passe après la chute. Hein. La première partie où nous avons lu en Genèse 1, c'était avant la chute. Et là, l'homme, il a déjà chuté. C'est après la déluge. Hein. Noé, Dieu, il donne entière domination, dominion sur toute la création. Mais même après la chute, Dieu l'a fait grâce à l'homme qu'il domine sur tout monde animal et végétaux. Hein? Et c'est ça que ce psaume, il dit, hein, tu l'as fait peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Et même après la chute, l'homme, Dieu, il a couronné de gloire et de magnificence. Mais notre société, il a réduit l'homme à rien du tout. L'homme, il est réduit à un chiffre, à un numéro. Hein. Chacun, nous avons une carte d'identité, une carte vitale. Et maintenant, c'est le vaccin. Nous avons tous un code, un QR code. On est réduit à ça. Mais l'homme, Dieu l'a fait couronner, Dieu l'a couronné de gloire et de magnificence. Mais l'homme, il n'est pas conscient qu'il porte l'image de Dieu. Et notre adoration, ce sera vaine si nous ne considérons pas les autres humains, les autres êtres humains, comme portant l'image de Dieu. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as mis sous ses pieds le brebis comme les bœufs, les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt le sentier des mers. Éternel notre Dieu, Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Le premier Adam, il a tombé, il a chuté, il a amené les choses sur la condamnation sur sa tête. Il a perdu la première gloire que Dieu l'a donnée, la première chose que Dieu l'a donnée. Mais le second Adam, Jésus-Christ, qui est venu rétablir tout ce qui était perdu. Hein? Et si vous regardez la beauté dans ce psaume, ça parle des deux. C'est pourquoi l'écrivain aux Hébreux, prenez avec moi Hébreux 2, on va lire à partir de verset 5 jusqu'à 10. Hébreux 2. On va lire 5 jusqu'à 10. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Au départ, dans la création, quand Dieu a créé le ciel et la terre, Dieu n'a pas soumis toutes ces choses aux anges, mais il a soumis toutes ces choses à l'homme qui était créé même au-dessus des anges. Mais l'homme, il n'était pas conscient de tout ça. Même aujourd'hui, je demande si l'homme il est conscient de tout ça. Hein? Les anges n'ont aucun dominion sur la domination, sur la création, sur toutes ces choses. C'est l'homme qui est le gérant de toutes ces choses. Aujourd'hui, l'homme il est en train de détruire tout. On voit le feu de forêt, les déluges, partout. Parce que l'homme, il a mal géré à cause de son égoïsme, à cause de son péché. Verset 6. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Ou le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges. Tu l'as couronné de gloire et de l'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. Ici, ça parle C'est prophétique. Ce psaume 8, hein, ça parle de Jésus-Christ. Ça parle de Jésus-Christ. Tu l'avais, c'est pour un peu de temps, quand il était sur la croix, quand il est né comme un enfant, quand il a pris la chair humaine. Tu l'as baissé pour un peu de temps au-dessus des anges. Tu l'as couronné de gloire et de l'honneur. Tu as mis toutes choses sur ses pieds, en effet, en lui soumettant toutes choses. Dieu n'a rien laissé que ne lui soit soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenir que toutes choses lui soient soumises. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils est élevé à la perfection par la souffrance de le prince de leur salut. Vous voyez comment cette psaume, le psalmiste, il écrit ce psaume dans une manière prophétique. Il voyait comment Jésus-Christ va être abaissé pour un peu de temps, pour prendre la chair humaine, pour mourir sur la croix, et afin que toutes choses soient soumises à ses pieds. Et quand on lit ce psaume, normalement nous devrions être bouche bée devant la grandeur de Dieu, devant la majesté de Dieu, devant la magnificence de Dieu. Et David, il termine ce psaume en disant que ton nom est magnifique sur toute la terre. Et nous devrions être étonnés par l'amour de Dieu et par l'amour de Dieu pour nous. Quand David il a vu les cieux, il pose cette question: qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Et troisièmement, nous devrions être des bons gérants de cette création et conduire. Même en tant que chrétien, je pense que je ne vous demande pas d'être l'écologiste. C'est une autre chose, ils font autre chose, mais nous devrions être responsables pour aussi admirer cette création, pour admirer ce que Dieu a fait. Et je me souviens, pendant le confinement, quand nous étions chacun fermés dans notre maison, Jesse il voulait lire le psaume 19 pour dire que voilà, les étoiles sont brillantes et sont beaux. Mais on n'a pas besoin d'être confinés encore une fois pour admirer la création de Dieu. Mais on peut admirer quand même la création de Dieu. Mais qu'est-ce que nous avons, un Dieu qui est si admirable, si magnifique. Et seulement la parole de Dieu peut nous exhorter pour être en admiration à notre Dieu, notre Créateur. Que le Seigneur bénisse ta parole. Amen.